Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serroque.
Donc vous êtes une montpelliéraine, un pur jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices, amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Comment la ville de Montpellier et la métropole vont-elles évoluer en fonction des choix en matière d'urbanisme, d'aménagement urbain dans les quartiers, d'offres de logement? Cette question majeure se pose pour les habitants, actuels ou futurs, pour les professionnels de l'acte de construire et bien sûr pour les élus. Les attentes de qualité de vie pour les familles, les perspectives économiques pour les entreprises sont pour une grande part déterminées par les choix politiques nationaux ou locaux. Voilà pourquoi j'ai invité Maryse Faye. Maryse Faye, merci d'avoir accepté de venir au micro de Divergence FM. Vous êtes adjointe au maire de Montpellier, déléguée à l'urbanisme durable et à la maîtrise foncière. Nous verrons ce dont il s'agit. Vous êtes aussi conseillère communautaire de Montpellier Méditerranée Métropole. Vous avez une formation d'architecte urbaniste. Vous avez exercé vos compétences dans le secteur public, en particulier dans les services de la ville de Montpellier, comme directrice adjointe de l'urbanisme opérationnel. Ce service gère notamment la délivrance des permis de construire. Puis dans les services de la région, d'abord Languedoc-Roussillon, puis Occitanie, comme directrice de l'aménagement du territoire. C'est donc avec cette expertise professionnelle et votre engagement au Parti socialiste que depuis 2020, vous faites partie de l'équipe municipale. Avant que nous voyions avec vous les dossiers dont vous avez la responsabilité, racontez-nous votre Montpellier. Alors, si vous voulez bien, pas en tant qu'élu, si possible, mais comme simple habitante, comme promeneuse. Et d'abord, quels sont les lieux à Montpellier que vous appréciez particulièrement, auxquels vous êtes attaché, qu'ils soient très connus ou pas ?
Alors Montpellier, c'est une histoire qui a commencé pour moi en 1987.
Donc vous avez vu la ville évoluer pour le coup.
Donc non seulement j'ai vu la ville évoluer, mais en 87, je suis rentrée donc à la mairie de Montpellier, comme vous le dites, et j'ai eu la chance, mais vraiment la grande chance, d'avoir un parcours professionnel extraordinaire, puisque j'ai travaillé avec Georges Fraîche et Raymond Degrand.
C'est-à-dire ceux qu'on peut le dire pour les jeunes auditeurs qui ont pensé et mis en œuvre Montpellier d'aujourd'hui, qui ont tracé la route et les perspectives dans lesquelles la ville s'est ensuite développée.
Tout à fait, qui ont en fait ouvert Montpellier sur la mer, c'était la volonté de Georges Fraîche, et les nouveaux quartiers qui sont à l'est de Montpellier, puisque Raymond Degrand avait travaillé avec Ricardo Beaufil, qui est prématurément décédé. Et c'est vrai que le trio Fraîche, Dugrand et Beaufil ont permis justement cette ouverture.
Alors pour une jeune professionnelle, bon, c'était passionnant.
Ah, moi, je me suis passionnée. J'ai eu une vie professionnelle extraordinaire. Et quand vous disiez tout à l'heure que j'avais l'urbanisme et la maîtrise foncière, c'est aussi quelque chose que j'ai mené quand j'étais à la mairie de Montpellier. Et donc, c'est vraiment dans mon ADN que la ville s'est faite en acquérant, en préemptant, en expropriant des terrains.
Alors,
sur l'Est.
C'est l'ancienne fonctionnaire territoriale ou l'élu qui parle, mais revenons à la promeneuse. Quels sont les endroits sympas à Montpellier que, bon, par exemple, que vous aimez faire découvrir à vos amis et parents de passage?
Alors, mon Montpellier, comme vous dites, c'est bien sûr toutes les petites rues qui sont adorables à découvrir, mais je le fais toujours avec la tête en l'air, parce que, oui, au niveau architecture, effectivement, vous disiez que j'avais une formation d'architecte, mais c'est aussi ma passion. Et c'est vrai que je ne peux pas me promener quelque part sans avoir la tête en l'air.
Y compris pour découvrir des choses que le passant ou le chaland ne voit pas nécessairement.
Même moi, je découvre encore des choses. Et les lieux où je préfère aller, où peut-être tout le monde ne va pas, j'adore prendre de la hauteur et voir la canopée de Montpellier et de lire la ville en étant en hauteur. Et donc, tous les lieux qui sont stratégiques, soit en tant que bâtimentaire, soit en tant que paysage, j'essaye de grimper le plus haut possible.
Ouais, pour avoir la vue d'ensemble.
Exactement.
Y compris pour faire apparaître la part d'évolue au végétal, qui n'est pas si mal. Il y a une étude qui est sortie hier, je crois, qui donnait la proportion de surface d'évolue au végétal. Là. Montpellier, pas mal placé. Quoi.
Montpellier est très, voilà, très riche mal placé, au niveau végétal. Et on a un couvert végétal extraordinaire sur lequel on doit avoir une attention tout à fait particulière.
Très bien. Alors, peut-être une question charnière. Donc, vous avez dit, bon, depuis 87, vous avez été à la fois acteur, actrice et observatrice de la mutation que la ville a connue, urbanistique, démographique. Quelle vision d'ensemble, selon vous, ça peut donner, là, donc, une trentaine, 30 ou 40 ans après?
Ben, moi, je ferai confiance à ce que disent les étudiants. Au niveau national, il y a une étude qui a été faite et Montpellier a été, avec le journal de l'étudiant, classé en première ville où il fait bon étudier et vivre. Donc, je pense qu'il faut faire confiance aux jeunes et que Montpellier est sur une trajectoire qui est véritablement sur le rayonnement et l'accueil de tous et de toutes.
Et enfin, dernière question sur ce petit chapitre introductif. Par rapport à d'autres villes que vous pouvez connaître, qu'est-ce qui caractérise la ville? Qu'est-ce qu'il y a le style montpellierain ou la Montpellier touch, là, que vous pourriez la décrire? Donc.
La Montpellier touch, ben, c'est quand même une ville du Midi. Et c'est peut-être une caractéristique principale de se dire on est à un quart d'heure de la mer. On n'y va pas tous les jours parce qu'elle est là. C'est comme à Paris, on ne va pas à la Tour Eiffel tous les jours. Donc Montpellier est attachante par ça, parce qu'elle a à la fois la mer à proximité, les montagnes à proximité, et un cadre de vie qui est aujourd'hui en plein développement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais comme le dit le maire président, il y a des travaux partout, mais quand ils seront finis, je peux vous dire que ça sera un cadre de vie amélioré, décarboné et surtout accessible à tous.
Très bien. Alors, ben, on a commencé à aborder le sujet qui nous rapproche aujourd'hui. L'intitulé de vos fonctions exprime des choix politiques. En effet, je l'ai dit, vous êtes délégué pas seulement à l'urbanisme, mais à l'urbanisme durable, ainsi qu'à la maîtrise foncière. Quelles grandes lignes de l'action de la majorité municipale apparaissent dans ces formulations, qui étaient donc une espèce de feuille de route qui vous a été donnée?
Alors, je dirais que urbanisme durable, c'est un peu superfétatoire, parce que finalement, chaque geste, chaque opération, chaque réflexion qu'on doit avoir, c'est pour avoir une ville qui, justement, est dans une expertise et dans une excellence qui fait qu'on est de toute façon dans une dynamique où on décarbone, on végétalise. Et ce sont ces nouveaux paradigmes que l'on a mis en place quand nous sommes arrivés aux affaires, comme on dit, avec nos nouvelles politiques, en particulier sur le logement. On y viendra peut-être tout à l'heure, et également sur la création de nouveaux outils, parce que quand on a des politiques nouvelles, il faut aussi des nouveaux outils, par exemple Altemed. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est Altemed, notre bras armé.
Le rapprochement entre ACM, qui gère le parc de logement social, et la CERM, qui est l'aménageur, qui travaille sur le foncier, notamment, pour produire ou faire en sorte que soient produites des opérations diverses de construction ou d'équipement.
Et le troisième volet qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est tout ce qui concerne l'énergie. En particulier l'énergie par le réseau de chaleur que l'on met en place en ce moment, mais pas que. Et donc ces nouveaux outils nous permettent aussi, avec nos politiques, d'avoir créé de nouveaux paradigmes pour que justement cette ville soit une ville désirable, accueillante et reconnue par les étudiants, en tout cas, comme étant un agréable espace à vivre et à étudier.
Le deuxième volet, vous l'avez rapidement évoqué tout à l'heure, bien sûr, on pourra y revenir, c'est maîtrise foncière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette volonté politique d'afficher cet objectif-là dans le programme de l'équipe municipale et dans celui qui vous a été dévolu?
Maîtrise foncière, c'est un mot un peu technique, effectivement. Mais si on le résume au fait qu'il faut être dans l'anticipation pour pouvoir faire de l'urbanisme et de tirer la ville par le haut, la maîtrise foncière est essentielle. C'est-à-dire qu'il faut acheter les terrains avant même de pouvoir faire une opération et de capitaliser sur ces terrains pour que, quand on a besoin, on puisse réaliser l'équipement. C'est par exemple le cas des écoles. Pendant le mandat, on va faire 6 groupes scolaires. Et ben, avec la maîtrise foncière, on peut acheter, on peut préempter, on peut disposer de terrains qu'on avait achetés.
Donc anticiper.
Et donc, c'est ce qui permet à une collectivité de pouvoir réagir en temps voulu. Et la maîtrise foncière, voilà. Évidemment, c'est un des outils sur lequel le législateur nous a donné un certain pouvoir.
Comment disposer des terrains dont la collectivité a besoin pour ses propres besoins, aménagement ou équipement public, mais également pour des opérations confiées à des promoteurs.
Alors ça, je dirais que ça va bientôt être une vision stratégique du passé, parce que nous sommes avec un ADN qui rentre dans le cadre de « on ne consomme plus de terrains vierges ». Donc effectivement, à une époque, les réserves foncières se faisaient sur des terrains vierges qui coûtaient moins cher, bien évidemment, mais qu'il fallait équiper, donc qui permettaient ensuite d'être construits. Aujourd'hui, on est dans un cadre législatif qui est plus contraignant, mais qui est plus bénéfique, comme on dit, pour la planète, dans la mesure où on essaye de travailler sur la ville, de réinvestir des quartiers, comme par exemple on le fait sur la Restingue. Là, on a un potentiel.
La Restingue, bon, c'est des terrains, notamment un SNCF, pas très loin du d'Arène, là.
Au sud de Montpellier.
Voilà, au sud de Montpellier.
D'ailleurs,
il y a un programme, bon, à la fois de logement et d'équipement public, qui est en préparation actuellement.
Bien sûr, parce que quand on fait des nouveaux quartiers, quand on réinvestit des nouveaux quartiers, quand on fait de la reconquête, il faut absolument que l'on ait une mixité fonctionnelle, c'est-à-dire pas que du logement, mais aussi des activités, des aménagements d'espaces verts, en fait, créer des animités qui permettent d'avoir ce qu'on appelle la ville du quart d'heure. Mais c'est aussi amener de la mixité sociale, c'est-à-dire offrir à tout un chacun, en fonction de son pouvoir d'achat, et ça c'est très important, la possibilité soit de louer, soit d'acheter.
Alors, donc avec une diversité de l'offre.
Tout à fait.
Ou une diversification de l'offre plus ample que ce qu'elle a pu être autrefois.
Exactement. Alors les outils qu'on a mis en place, c'est le développement de nos politiques sur le logement que Michaël Delafosse, dès ses prises de fonction, a voulu mettre en place. C'est par exemple l'encadrement des loyers pour essayer
de... On va en parler,
de...
oui.
Si vous voulez, on en parle maintenant.
Mais allons-y, on peut en parler, oui, bien sûr. C'est un marqueur, comme on dit.
C'est un marqueur social très fort. En fait, pendant la campagne, il a été décidé de faire un bouclier social. Et pour faire ce bouclier social, toutes les politiques qui tournent autour du logement sont nécessaires. Il n'y en a pas qu'une seule, c'est-à-dire construire, il y en a plusieurs. Donc c'est l'encadrement des loyers pour qu'il n'y ait pas d'extravagance sur le montant des loyers. Alors c'est plutôt une compétence État, mais c'est la ville qui la met en place.
Oui, parce qu'il y a un cadre national qui existait dans lequel la ville a pu s'inscrire.
Alors, on nous a attaqué il n'y a pas très longtemps, mais le tribunal nous a donné raison.
C'est-à-dire, oui, il y avait un recours pour annuler l'arrêté municipal qui crée l'encadrement des loyers et le tribunal administratif. On verra s'il y a un appel sur ce jugement à écarter cette demande.
On est confiant parce qu'en fait, les montants de loyers qui ont été arrêtés le sont en fonction du marché. Ceux qui sont au-dessus seront sanctionnés. Ceux qui sont en dessous, c'est peut-être des marchands de sommeil. Ils doivent être sanctionnés également.
De régulation douce, je dirais. En tout cas, de régulation dans les discordances ou les choses qui pourraient paraître anormales dans le prix des logements.
Exactement. Ensuite, on a mis en place aussi, pour pouvoir satisfaire les demandes et réaliser le parcours résidentiel de tout un chacun, en particulier ceux qui sont dans les logements sociaux, on a mis en place un nouveau programme qui a été créé avec l'Office foncier social et solidaire qui permet de faire une construction avec une vente en démantelant le terrain et le bâti. Ce qui fait que
distingue les deux volets.
Exactement.
Combien coûte le terrain et qui paye et combien coûte, bien sûr, la construction sur ce terrain.
Et on impose aux promoteurs de faire ce qu'on appelle du BRS, un peu...
Bail réel solidaire,
effectivement, qui permet donc de pouvoir vendre à 50%, 40% ou 50% en moins que du libre, mais avec les mêmes prestations. Ça, c'est ce qu'on impose aux promoteurs.
Donc ça a été mis en place.
C'est mis en place.
Et vous avez pu mesurer les premiers effets de ce dispositif?
Alors, ce dispositif aurait pu être mis en place il y a longtemps, mais on l'a mis en place il y a qu'un an et demi. Et donc, les premières constructions ne sont pas encore sorties, d'accord, mais elles sont en cours.
Il y a des dossiers en cours d'études, en tout cas.
Bien sûr. Et il y a des futurs propriétaires, les futurs acquéreurs, qui ont déjà été sélectionnés. Alors ensuite, on a d'autres politiques, parce que ce n'est pas, comme je vous disais tout à l'heure, construire, c'est aussi remettre sur le marché certains logements qui ne le sont plus. Et c'est ainsi qu'on a fait une régulation du logement saisonnier. On ne l'interdit pas, on
alors,
le régule.
Logement saisonnier, bon, c'est type Airbnb.
Oui,
prolifération à Montpellier, moi, je peux le dire, moi. Prolifération à Montpellier, comme ailleurs, de ce type d'offres.
Bien sûr.
Au dépend de la demande de gens qui cherchent des logements, bien sûr, à l'année et au-delà. Quoi,
exactement. Hein. Ça supprime du marché locatif familial des logements, en particulier en centre-ville, ce qui a des conséquences, on va dire, annexes, par exemple sur le commerce, sur l'animation dans les centres-villes, sur les nuisances éventuelles. Et cette restriction d'offres nous écarte aussi la population et les familles du centre-ville. Donc la régulation du Airbnb, comme vous le dites, c'est non seulement pour éviter et diminuer la concurrence vis-à-vis des hôteliers, mais pas que. C'est aussi pour ramener du logement en centre-ville.
Alors là, pareil, bon, mesure mise en place relativement récemment, mais est-ce que les premiers effets de ce que vous appelez la régulation se sont-ils fait connaître ?
Alors, pour l'instant, on n'a pas fait cet observatoire-là. Ça fait qu'un an et demi, deux ans qu'on l'a mis en place. Donc, on attend la fin de l'année triennale, puisque c'est une autorisation qui est donnée pour 3 ans, pour faire ce bilan.
D'accord. Alors là aussi, vous avez dû faire face à des récriminations.
Bien sûr.
Qui se sont calmées, me semble-t-il, une fois cette mesure annoncée.
Disons qu'elles se sont calmées peut-être vis-à-vis de ceux qui mettent en place et qui utilisent ce principe d'aménagement de leur logement pour ça. Mais dans la mesure où aujourd'hui, il y a même des communes qui veulent carrément supprimer cette autorisation.
C'est un mouvement massif, je pense à Biarritz,
surtout,
je pense à d'autres villes.
Annecy, par exemple.
Où le phénomène est tel que ça exclut pratiquement les habitants locaux d'accès
tout
à un logement.
Quand on voit les petits cadenas au bord des fenêtres, là on comprend qu'effectivement, il y a eu un remplacement des logements familiaux par des logements à rentabilité, si j'ose employer ce terme-là. Et donc nous attendons la fin de la période triennale pour savoir si on va un peu plus accentuer cette régulation ou si on considère que ce que l'on a mis en place aujourd'hui est suffisant.
Alors pour éclairer le sujet, là peut-être un élément d'information, un repère en tout cas, l'étude de l'opinion des Montpelliérains sur l'action de la municipalité, réalisée par l'IFOP en octobre 2023, donc il y a 6-7 mois, démontre que parmi les 10 thèmes traités dans une des questions, l'offre de logement suscite la satisfaction la plus faible, 37% des réponses, et alors que c'est une des attentes les plus fortes, 80% des réponses. Alors, comment expliquez-vous ce phénomène et ce différentiel ? Parce que les 9 autres thèmes, bon, les résultats, dans l'opinion des Montpelliérains en tout cas, sont meilleurs, comme évaluation, bon, purement estimative, bien entendu, de l'action des municipalités, là, au bout de 3 ans et quelques de mandat. Pourquoi il y a une attente ? Est-ce que Montpellier est dans une situation particulière ? Où les besoins en logement, en location ou à la vente, sont particulièrement forts et donc appellent des réponses peut-être plus complexes à mettre en œuvre.
Alors cette analyse, elle est concrète, effectivement. Pourquoi ? Tout simplement, peut-être que Montpellier a une situation particulière au niveau national. Nous sommes la 7e ville de France. Nous avons grandi en tant que démographie de façon très galopante depuis les années 60.
Oui. Exceptionnel, enfin, en tout cas, qui en fait de ce plan une des villes qui a le plus grandi en population depuis 20 ans ou 30 ans.
Et c'est toujours une caractéristique, puisqu'aujourd'hui, nous accueillons sur la métropole à peu près 80 000 habitants supplémentaires par an.
Non, pas 8 000.
8 000,
oui,
j'ai dit quoi ?
80 000.
Ah non, excusez-moi.
8 000, c'est déjà beaucoup.
C'est déjà beaucoup. 8 000 habitants par an. Et 4 000 en gros sur la ville de Montpellier. Et ça nous arrive encore à être dans une situation de grimper. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec 500 000 habitants sur la métropole et 300 000 en gros sur la ville, beaucoup de personnes nous disent « mais il faut arrêter ».
Oui.
Il faut arrêter d'accueillir. Et bien avec le maire, président de la métropole, il a été décidé que on n'arrêtait pas.
Oui, parce que
on essayait.
Je vous coupe. Il y a cette demande de gens, bon, ils sont bien là, ils sont là depuis longtemps ou depuis quelques mois, ils ne veulent pas trop voir arriver des nouveaux. Bon, ce n'est pas une grande forme d'accueil. Et puis, il y a un débat politique même là-dessus, sur la croissance démographique. Donc, là-dessus, vous venez de nous le dire, il y a un choix d'accueillir de nouveaux habitants, mais j'imagine de façon qui ne soit pas inconsidérée ou exagérée. Et notamment, ça se traduit, me semble-t-il, par ce dont vous avez parlé, l'offre de terrain, parce que pour les nouveaux habitants, il faut construire des logements ainsi que des équipements publics. Donc, il faut des terrains. Alors, comment cet équilibre, me semble-t-il, que vous recherchez, vous le visez, comment vous y prenez pour trouver cette forme de, je dirais, de croissance maîtrisée, harmonieuse?
D'abord, avec notre sensibilité de gauche, nous sommes une ville de gauche et on le revendique. On est dans l'accueil des populations, mais dans de bonnes conditions. Donc c'est vrai que ce sont les équipements publics. Je vous parlais des écoles tout à l'heure, mais c'est pareil pour les crèches. On a un plan pour 300 berceaux dans le mandat qui est en train de se terminer et le début du mandat prochain. On est sur la création des écoles. Donc c'est tous les équipements publics qui sont nécessaires pour bien accueillir. Bien accueillir, c'est aussi offrir un logement. Et je le disais tout à l'heure avec beaucoup de conviction, en fonction du pouvoir de tout un chacun. Donc, il faut qu'on élargisse, et on le fait, le panel de produits que l'on offre. Donc, du logement social. Je rappelle que nous avons 35 000 demandes de logement social en attente.
Et donc, un parc géré, par Altemed, ex-ACM, qui est de combien, là, la partie de logement social qui dépend des élus de la ville, et notamment de Michel Calvo, qui est sur ces questions de logement social. C'est combien de logements?
Aujourd'hui, je ne vous donnerai pas de chiffres, parce que nous sommes dans une dynamique aussi de travailler sur les quartiers dits prioritaires, comme par exemple la Mosson, comme par exemple les Cévennes. Et là, nous sommes dans une dimension de réhabilitation de certaines copropriétés dégradées, et nous les aidons. Mais quand elles sont véritablement dégradées, on part sur le principe qu'on fait une démolition, parce que certaines copropriétés avec certains syndics, dont je ne donne pas les noms, ont été, on va dire, défiants. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans le besoin de démolir certaines copropriétés.
La Tour d'Assas, c'est la seule solution viable pour
certains. Comme par exemple la Tour d'Assas. Et la Tour d'Assas, depuis l'an dernier, elle est entièrement vidée, c'est-à-dire que tous les relogements ont été faits avec beaucoup de précautions et en personnalisant chacune des familles avec le travail qu'a fait ACM sur cette étude sociologique. Et c'est vrai que la tour, par exemple, de Fond-del-Rey, vous en avez entendu parler.
Alors c'est au nord de la Paillade, si mes souvenirs sont bons.
C'est une tour qui, aujourd'hui, était sous l'emprise de marchands de sommeil. Qu'est-ce qu'on a fait? Là aussi, vous parliez de maîtrise foncière tout à l'heure. Bien, on a préempté quand il y a eu des ventes. Et en fait, on est devenu largement majoritaire sur cet ensemble immobilier. Et quand ACM a commencé à mettre son nez à l'intérieur de cette tour, ils se sont aperçus que d'abord, c'était dans un état lamentable, mais avec des loyers très élevés. Donc, les loyers ont été baissés en fonction justement de l'état des bâtiments. Et on va être appelé à la détruire, cette tour.
Oui,
donc, il va falloir faire du relogement.
Rapotasser ou rénover, ça marche pas.
C'est pas possible. Donc, en fait, tous ces relogements qui sont nécessaires aussi vont amener à construire des logements supplémentaires. On réduit le parc, mais il va falloir qu'on l'agrandisse. Et ce que l'on veut faire sur la Mosson et sur les Cévennes en particulier, ce sont la mise en place d'opérations qui permettent d'inverser la mixité. Pourquoi? Tout simplement pour amener des populations qui sont des classes moyennes, amener aussi du tertiaire et des bureaux pour permettre justement d'avoir une clientèle qui puisse aussi faire fonctionner les commerces. Il faut qu'on travaille sur ce rééquilibrage de la ville dans son entier.
Et ça, les différentes fonctions.
Avec différentes fonctions.
Des commerces, des logements.
Des nouvelles écoles, comme vous l'avez vu.
Et des équipements publics.
Oui. Hypatie a démarré il n'y a pas très longtemps, le pôle éducatif aussi. Amener de nouvelles écoles ou réaménager des écoles pour que justement ces classes moyennes puissent aussi trouver les équipements éducatif sur place et que la mixité se fasse à l'intérieur des écoles. Et ça, c'est une volonté acharnée de Michael Delafosse, apporter de la mixité sur ces quartiers, rééquilibrer la ville dans son ensemble. Et ce rééquilibrage, il va se faire aussi, par exemple.
Arrêtons-nous là-dessus.
Excusez-moi. C'est
les opérations de rénovation urbaine, puisque c'est leur intitulé officiel, beaucoup d'argent, plusieurs centaines de millions d'euros.
Oui, mais en partie apportée, avec la force de Michael Delafosse,
beaucoup de choses,
on arrive à avoir des financements supplémentaires de l'ANRU.
Voilà, qui est l'Agence de rénovation urbaine qui apporte une partie notable des financements, mais il y a quand même de l'argent de la ville, de la métropole.
Bien évidemment.
Pour des actions qui vont mettre plusieurs années à voir le jour, parce qu'il y a par exemple la manière dont les espaces publics, qui sont les espaces partagés, vont être revus, notamment à la Mosson, qui font partie des choses qui sont dans les tuyaux. Mais le temps de l'inauguration avec le roman tricolore n'est pas arrivé, mais ça avance.
C'est le problème un peu de la frustration des urbanistes que je suis. C'est le temps long de l'urbanisme.
Oui. Alors, un petit mot là-dessus, parce qu'après tout, c'est une question intéressante. Il y a le temps des projets, et notamment le temps des urbanismes. Il y a un besoin, on étudie, on regarde comment ça peut se passer, on imagine plusieurs réponses, plusieurs scénarios, puis une décision qui est prise. Il faut chercher les moyens de réussir l'opération, les terrains, vous le disiez, le financement, puis le chantier, tout ça prend beaucoup d'années. Et ces années du projet, de la réalisation effective du projet, se heurtent à une impatience qu'on peut comprendre des habitants. Comment vous le traitez, cette distorsion entre le temps nécessaire des projets et le temps compréhensible des habitants.
Le comprendre, c'est facile, parce que quand on dit qu'il y a un immeuble qui va être réalisé à un certain endroit, d'abord, il y a le discours de la hauteur, puisque maintenant on doit travailler sur la hauteur, qui est difficile à admettre par les futurs, par les riverains qui sont déjà là. Et donc, cette impatience fait qu'ils n'ont pas la notion du fait que quand on apporte un projet supplémentaire, on travaille sur les équipements publics. Et ça, c'est important parce qu'il faut apporter un plus à ceux qui sont déjà là. Ce n'est pas un plus simplement à ceux qui vont venir habiter ces logements-là.
C'est améliorer aussi la qualité de vie des habitants actuels et bien sûr des habitants
futurs. Tout à fait. Et ça, c'est la seule solution pour faire accepter justement cette redensification qu'on doit obligatoirement mettre en place sur la construction de la ville.
Alors, beaucoup parlé du sujet lourd, pas toujours très sexy, mais il y a quand même la question des folies, entre guillemets, les folies architecturales. Donc, il y a une nouvelle vague de folie qui a été annoncée. Alors, pour évacuer une incompréhension, les folies, dites-nous ce que c'est, parce que ça peut apparaître comme une forme de gaspillage organisé, folie. Et puis, où en sont les projets? Mais deuxième question, est-ce qu'ils ne sont pas trop freinés par la crise immobilière que nous avons évoquée?
Alors, bien évidemment. Alors, déjà pour
folie, rappelons l'histoire.
Folie, alors, rappeler l'histoire, c'est déjà redonner la paternité de la création des folies à Michael Delafosse, puisqu'il l'avait fait quand il était
adjoint à l'urbanisme sous la précédente municipalité.
Avec Hélène Mandeau. Et donc, il n'y en a que deux qui sont sortis et le programme a été arrêté. Donc, quand...
Alors, les folies, c'est l'arbre blanc. Et,
tout à fait, et la folie divine.
Et la folie divine.
Donc, il y a ces deux folies qui sont sorties. Et ces deux folies n'étaient pas dans la nouvelle mouvance que nous avons voulu donner, à savoir des bâtiments qui correspondent aussi à nos besoins. C'est-à-dire que dans les folies qui vont venir, qui vont sortir de terre, il y aura de la mixité fonctionnelle et de la mixité sociale. La semaine dernière, le promoteur Sogeprom a lancé la folie de l'Ovalie. Il y aura dans cette folie 24 logements qu'on appelait tout à l'heure BRS, c'est-à-dire de l'accession sociale, avec les mêmes prestations que les autres appartements. Et donc, c'est ça la nouvelle folie de Michael Delafosse.
Ouais, donc c'est pas...
Alors,
voilà.
Les folies, c'est quoi l'histoire des folies? On les a appelées les folies en comparaison avec les folies du XVIIIe siècle. Mais les folies du XVIIIe siècle, c'était quoi? C'était des maisons plutôt un peu bourgeoises, qui étaient plutôt pour le loisir ou le plaisir.
Oui, au milieu
d'un espace vert, d'un parc magnifique en général, mais à l'extérieur de la ville. Là, chaque quartier de Montpellier va avoir sa folie. C'est ça le rééquilibrage d'une ville aussi. Il y aura une folie à la Mosson, comme celle de Ovalie, comme celle qu'il y aura aussi à la Restinque. Et donc, c'est véritablement une marque avec une signature architecturale. Et c'est ça que qui est souhaitable. C'est le beau et l'excellence partout.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Maryse Faye, on aura l'occasion d'en reparler parce qu'on a vu combien ce sujet est riche. Parce que, bon, à la fois, bon, c'est une grosse partie de l'activité et des responsabilités des élus, mais ça concerne, bien sûr, comme on a essayé de le démontrer, la vie quotidienne des habitants. Je vous remercie.
Merci à vous.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serov.
Donc vous êtes une Montpelliéraine, un pur jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.